Alors, Mohamed est avec nous, notre expert en salaire, en contrat, en foot en général, puisque donc ce matin, l'équipe a publié les salaires de la Ligue 1. Alors on précise d'entrée, ce sont des estimations de salaire brut mensuel. On va vous dire ce qu'il faut retenir de tout ça et on en débat après. Êtes-vous choqué par certaines de ces informations? 32-16 et hashtag RMC Live sur Twitter. Mohamed, déjà, avant que tu nous donnes ton avis sur tout ça, quelles sont les 5 infos que tu as sélectionnées à retenir?
Alors j'ai choisi 5 chiffres, on va pas jouer au juste prix, captain, coach, mais en tout cas c'est intéressant, ça, c'est 5 montants, ça. Voilà, c'est un truc de vieux, mais bon, j'ai pas le micro, je jette pas mon micro en l'air et je le reprends pas,
bien.
Mais en tout cas j'ai choisi 5 chiffres qui sont assez importants, en tout cas qui montrent en tout cas des choses intéressantes sur les salaires, les différents salaires en Ligue 1. Le premier, c'est 1 100 000 à messieurs
Thiago Silva.
Bravo captain, c'est le salaire de Thiago Silva, 1 100 000 euros par mois en Ligue 1 au Paris Saint-Germain.
C'est celui de Zlatan, non?
Non, Zlatan c'était un petit peu plus élevé. Ah. Zlatan c'est un petit peu plus élevé pour le Suédois, parce qu'il atteignait quasiment 14 millions et demi d'euros par an. En tout cas, c'est le salaire le plus élevé, le plus important de Ligue 1.
Mais il y a déjà une anomalie dans les explications.
Brut ou net, voilà. C'est ça.
Parce que quand on nous a donné les chiffres depuis plusieurs années, c'était net d'impôt.
Là, c'est du brut.
Donc pour que ce soit net d'impôt, il faut doubler tous ces chiffres-là.
Là, c'est du brut, même si, et là encore une fois, c'est compliqué de travailler sur les salaires. Pourquoi? Parce que selon certains joueurs, le Paris Saint-Germain s'était engagé par exemple à payer les impôts, la différence des impôts entre l'Italie et la France. Dans le cas de Thiago Silva, ça a été le cas. Alors là, c'est 1 100 000 euros brut par mois, un salaire important. Le deuxième au Paris Saint-Germain, c'est Angel Di Maria avec 900 000 euros brut par mois. Le troisième, c'est Edinson Cavani. Il faut savoir que, et c'est normal, les joueurs parisiens trustent le classement des plus hauts salaires de la Ligue 1.
Donc 1 100 000 brut par mois, ça veut dire que ça fait aux alentours de 900 000 euros brut net par mois.
Un peu moins.
Un peu moins.
Ouais, 850. Ouais. 850. Et que net d'impôt, ça fait 450 000 euros.
Ouais. Grosso modo. Peut-être un peu plus.
Un peu plus.
Mais bon, on n'est pas loin de ça, en tout cas. Voilà.
Voilà.
Mais t'as raison, dans le raisonnement, il faut retrancher tout ça.
Mais pour que le chiffre soit complet, voilà, 1 100 000 brut, 850 net, 450 à 500, après impôt.
Bon, donc ça c'est pour le plus cher. Voilà.
On continue avec
le mieux payé.
Alors le salaire moyen, messieurs, en Ligue 1 d'un joueur, est-ce que vous l'avez? Le salaire moyen, eh bien, il est de 50 000 euros.
J'aurais dit 40 000.
C'est un salaire qui n'augmente pas en Ligue 1 depuis plusieurs années. 50 000 euros en moyenne. Et je vous donne ensuite le top 10 des joueurs les mieux payés sans les Parisiens, puisque le premier, un nom, messieurs. Falcao, 600 000 euros par mois. T'es pas loin, Jean-Louis, puisque Balotelli est deuxième avec 450 000.
Mais non, mais il est numéro 1. Excuse-moi.
Ouais, il est quasiment numéro 1. Oui,
puisqu'il est à Monaco.
On les explique pas. Et quand, par exemple, on parle de salaire, excuse-moi, Momo, tout le monde est passionné. Les gens, ils lisent. Mais les gens qui lisent et qui ont des difficultés pour terminer la fin du mois, à partir du 15 du mois, voire même à partir
du 16 de chaque mois. Surtout les 30 derniers jours.
Il faut leur expliquer que c'est sur un métier qui dure 5 à 6 ans. Je dis bien 5 à 6 ans. C'est ça la moyenne qui nous intéresse. Et en ce qui concerne les salaires, on oublie les primes à la signature, on oublie les pourcentages sur un transfert. Ce qui m'intéresserait de savoir, et ce qui intéresserait les gens, c'est combien gagne un footballeur annuellement et pendant combien de temps. Et qu'on souligne que ce footballeur, comme par exemple Thiago Silva ou Falcao, c'est quelques exceptions sur notre planète. Par contre, que le métier de footballeur dure, je dis bien, 5 à 6 ans, il dure 12 à 15 ans, mais financièrement c'est 6 ans, sauf pour les gros talentueux qui commencent à gagner de l'argent tout de suite.
On est d'accord.
À partir de 33 ans, bonjour la jeune, ils n'ont pas tous la chance d'être entraîneur, directeur sportif ou consultant comme nous.
Non mais coach, on n'est pas encore dans le débat, évidemment, on donne juste les chiffres qui ont été dévoilés ce matin.
Mais on parle
de salaire, il n'y a pas de souci.
Ce salaire mensuel, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il gagne dans l'année, et si vous voulez après diviser par 12, vous diviserez par 12. Parce que finalement, une prime à la signature, c'est pas un salaire, c'est pas de l'argent.
Oui. Non mais là les primes sont pas prises en compte hein, dans les chiffres qu'on donne depuis tout à l'heure.
On continue avec Balotelli qui est deuxième, salaire hors joueur parisien. Le troisième c'est Bafétim Migomis, le premier salaire à l'Olympique de Marseille avec 420 000 euros par mois brut. Il y a quand même des choses étranges, on va dire, selon les ratios sport, match disputé et salaire notamment. Et je vois où tu veux en venir, Captain. Notamment certains cas, je pense notamment à Clément Grenier.
Clément Grenier qui est quand même le troisième salaire de l'Olympique Lyonnais.
C'est ça.
Et qui n'a pas joué un match complet depuis 2 ans.
Oui, et son salaire de salaire de Clément Grenier, c'est 320 000 euros brut par mois. Ouais. Donc un salaire très élevé. Il est devant d'autres joueurs de l'Olympique Lyonnais. Il est devant, par exemple, Nabil Fekir. Voilà, on va dire que selon le ratio match disputé, temps de jeu.
Celui le plus cher. Hein.
Oui, voilà, c'est clair.
C'est intéressant tout ce que nous dit Mohamed, évidemment. La mise en perspective de coach Courbis également est intéressante. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément de grands spécialistes de foot, qui sont peut-être choqués par ces sommes. Est-ce que toi, Captain, qui est dedans depuis très longtemps, ça te choque, ces montants-là? Ou est-ce que finalement c'est normal? Comme l'a rappelé coach, la durée de vie, la durée de carrière est courte. On parle aussi d'une économie qui génère aussi beaucoup d'argent. Donc c'est logique que les joueurs, les principaux acteurs de cette économie, en gagne. Quelle est ta position sur tout ça?
Si j'étais un pro Mélenchon, si j'étais un pro Mélenchon.
Non, j'en doute de ça.
Comment?
T'as raison de mettre si, oui, effectivement.
Oui, je dis si j'étais un pro Mélenchon, qui a bien gagné sa vie d'ailleurs, depuis de nombreuses années, en étant un élu de l'État. Si j'étais un pro Mélenchon, je trouverais ça absolument. Pas scandaleux, mais ce serait pour moi une souffrance, obligatoirement. Je suis exactement dans le raisonnement du coach. De toute façon, sachez que les footballeurs qui signent des contrats, au bas du contrat, il y a plusieurs signatures, dont celle du président du club. Et que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun joueur qui soit arrivé avec un calibre en le mettant sur la tempe du président pour lui dire tu signes ou autrement je te fais le coup de la roulette russe. Ouais. D'accord? Donc, quand il y a un salaire qui est négocié entre le joueur et le président, négocier, ça veut dire que tout le monde est d'accord au moment d'apposer sa signature. Donc là, il n'y a pas de chantage.
D'accord, il n'y a aucun vol.
D'accord, et content. Si après tiens une blessure grave, si après le gars il se remet pas de la blessure.
On parlait de Grenier et du salaire mirobolant qu'il a par rapport. Mais est-ce que tu penses que Grenier est content de pas jouer? Et lui aussi est malheureux. Et l'Olympique Lyonnais est aussi quelque part frustré de voir un joueur qui coûte très cher ne jamais lui rendre service.
Et au moment de la signature que tu disais en bas de la feuille, un garçon comme Grenier ne pense pas une seconde qu'on puisse lui donner autant d'argent pour être spectateur.
Voilà. Et donc, il y a là, pour moi, évidemment, une situation. Et après, je reprends le raisonnement du coach. Je serais un tout petit peu plus généreux que le coach aujourd'hui sur les 5-6 ans. Je mettrais la TVA à 20%, tu vois. Je mettrais 8 ans. Allez, 8 ans. Je pense que sur 8 ans, 8-9 ans,
Non, mais les capitaines, les gens à qui on dit ça, il faut leur dire aussi qu'à 33 ou 34 ans, que la carrière s'arrête. On le sait. Mais qu'il n'y ait pas de retraite prévue, sauf 40 ans plus tard, tu es ponctionné régulièrement, il faut le dire aussi. Et quand tu auras ta retraite 40 ans après, elle sera imposable.
Sachez aussi que les footballeurs ne sont pas considérés comme des cadres.
Hein, oui.
Et qu'ils ne, bien que les salaires soient extrêmement élevés, ils ne cotisent pas à la caisse des cadres.
Avant de te redonner la parole, Mohamed, juste, on a posé la question tout au long de la journée aux entraîneurs de Ligue 1 qu'on a pu croiser sur ce sujet. Alors, certains disent, je suis plus payé que ce qu'il y a dans le journal, comme Frédéric Hantz, hein, je n'entraîne pas pour ce salaire-là en Ligue 1. Patrick Collot à Lille, lui a dit, on a annoncé 15 000 dans la presse. Ah bah non, c'est beaucoup moins. Beaucoup ont dit que c'était faux. Certains ont dit que ça pouvait semer la zizanie. C'est Mapouyang Gambiwa qui l'a dit à Lyon.
Complètement, parce que dans les vestiaires, il y a trois sujets de discussion.
Les femmes, le salaire.
Et les voitures.
Et les voitures.
Ah voilà. Oui, d'accord. Voilà. Alors justement,
et,
Mohamed.
Et ça n'a pas changé depuis le temps de Jean-Michel Larquet. Donc ça, il y a 50 ans.
Non. Pourquoi tu me dis ça n'a pas changé?
Bah, à l'époque, c'était pas ça.
C'était déjà le cas.
Non, c'est les voitures qui ont changé.
C'est les voitures qui ont changé, les femmes aussi.
Oui, un peu. Bah, c'est une question de carrosserie, tout ça. Bon. Alors, Mohamed, toi qui côtoies quand même le monde du foot, les joueurs, les agents en permanence, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces chiffres sortis?
Alors, ce qui me dérange, c'est qu'on jette comme ça des chiffres, j'ai envie de dire, en pâture, sans les expliquer. Et j'ai envie de redonner deux chiffres très importants, en tout cas deux nombres. Le premier nombre que j'ai envie de vous donner, c'est 700 millions d'euros. C'est les retombées du football au niveau local. C'est-à-dire que les bars autour du stade Geoffroy Guichard, par exemple, les restaurants autour de Bollard, les échoppes autour du stade Vélodrome, 700 millions d'euros, c'est les retombées du football au niveau local, et c'est ce que ça rapporte, on va dire, sur un terrain de proximité sur les stades.
Et là, ensuite, il y a des taxes.
Et ensuite, dessus, il y a des taxes. Ensuite, un chiffre beaucoup plus important, 1 milliard 200 millions d'euros de recettes fiscales. C'est la taxation du football en France. Le football français rapporte à l'État 1 milliard 200 millions d'euros. C'est l'un des secteurs les plus taxés devant le cinéma, devant la culture, devant la musique. Et ça, c'est assez incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on jette comme ça des chiffres, on donne des salaires de joueurs qui découvrent comme ça dans les journaux leurs salaires, alors qu'on ne donne pas forcément les salaires des journalistes. Si on devait faire des enquêtes, ben on n'aurait qu'à donner nos salaires.
Ni
de certains présidents, ni de certains chefs d'entreprise. Moi, je suis pour donner les salaires des journalistes, si on donne les salaires des joueurs. Oui, moi je suis pour donner les salaires. Ensuite, ce qui est assez dérangeant, c'est qu'on n'explique pas que tout cet argent, eh bien, le football et ses joueurs de foot, il vient de le dire, Captain, ne force pas les clubs à leur donner autant d'argent et surtout ramène plus d'argent qu'on ne le pense.
Mohamed, je voudrais aussi ajouter quand même quelque chose.
Et après, je voudrais vraiment qu'on prenne Benjamin au 32-7.
Le football professionnel, et Dieu sait s'il m'est arrivé de ferrailler un tout petit peu avec Frédéric Thirier et certains présidents de clubs, parce que quand on est de l'autre côté, quand on est dans le foot amateur, on en voudrait toujours un petit peu plus. C'est normal, et chacun défend sa paroisse. Mais là aussi, tu peux ajouter deux éléments qui sont quand même primordiaux, Momo. C'est le premier, le nombre d'emplois que génère le football professionnel.
Oui.
On doit pas être loin de 1000 ou 1500 emplois, je pense, au moins, dans les.
Plus de 3500.
3500?
Plus de 4000 en France.
Ah bah tu vois, alors j'étais très loin du compte, j'ai bien fait d'en parler. Plus de 4000 emplois pour le football professionnel. Et puis, le football professionnel aide aussi le football amateur, et que de ce côté-là, eh bien, sans le football professionnel, ça pourrait être mieux, je le dis tout de suite, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal, et ça aide ça. Donc, jeter ça, mais je viens juste revenir, j'en ai pour 15 secondes.
Oui.
Tu sais quels sont les deux moments où tu vends le plus de papier, Jean-Louis?
Vas-y.
Quand tu parles de transfert.
Et d'argent.
Et quand tu parles de salaire. Ouais. Voilà.
Alors bon, on précise bien quand même, on s'est posé la question pour faire ce sujet dans l'Arc et Foot, mais on s'est dit quand même que c'était important justement de mettre en perspective, comme on vient de le faire, tous ces chiffres, sans dire non plus qu'on ne comprendrait pas que les gens soient choqués, ceux qui ont du mal effectivement à joindre les deux bouts et tout. On comprend quand même la disproportion, mais je pense que c'était important quand même d'expliquer tout ça, de mettre en perspective tous ces chiffres qu'on a pu voir. On va vous donner la parole dans un instant au 32-16 si vous voulez réagir. Mohamed, merci. Sauf si tu veux rester avec nous.
Non, mais Mohamed, bon, il a d'autres chiffres
à détricoter.
Voilà, Jean-Michel, il n'a pas envie que je reste.
Exactement.
Donc
voilà.
Arrête-toi.
Salut Mohamed.
Ciao, coach. Ciao, Captain.
Les jeunes sont susceptibles, coach. T'as remarqué en général, c'est les
jeunes. Maintenant, oui.
Là, c'est les jeunes qui sont susceptibles.
C'est vrai. Mais bon, vous donnez des raisons aussi de se vexer. Attendez, vous n'êtes pas tendre quand même.
Oh, les gentillesses.
Oui, c'est ça, oui.
Bien au-dessus de la moyenne.